Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 9h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Xavier Besson.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Afrique Matin. Et une fois n'est pas coutume, on commencera ce journal par un crochet aux États-Unis. Nous reviendrons sur la carrière de George Foreman. On a appris cette nuit le décès du boxeur américain célèbre pour avoir été battu en 1974 à Kinshasa par Mohamed Ali. Mais nous verrons que sa carrière est loin de se résumer à cette seule défaite. Dans ce journal également, la justice malienne qui a jugé avant-hier des proches de l'imam Mahmoud Diko, arrêté au mois de février. Verdict la semaine prochaine. Et nous serons aussi au Ghana avec un incendie qui a touché hier l'un des plus grands marchés du pays, dans la deuxième ville du Ghana, Kumasi. Et en Éthiopie, Addis Abeba essaye en ce moment de restructurer sa dette extérieure et les autorités éthiopiennes viennent de trouver un accord avec certains de leurs créanciers. Son nom est définitivement associé à la ville de Kinshasa, la capitale congolaise, où il a été battu par Mohamed Ali en 1974 lors du célèbre combat surnommé Rumble in the Jungle. On a donc appris cette nuit la mort du boxeur américain George Foreman, battu donc par Mohamed Ali dans ce combat de légende, mais dont la carrière est bien loin de se résumer à cette seule défaite, nous explique notre correspondant aux États-Unis, Loïc Piala.
George Foreman ne s'en cachait pas. Celui qui a grandi dans la misère a été un bad boy, un adolescent violent et voleur. La boxe canalise cette mauvaise énergie et sa puissance fait des ravages chez les poids lourds. En 1968, Big George décroche l'or olympique à Mexico. Le boxeur noir célèbre sa victoire en agitant le drapeau américain, mal vu en pleine période des droits civiques. Il devient champion du monde en 1973 en terrassant Joe Frazier, titre perdu l'année d'après contre Mohamed Ali dans le Rumble in the Jungle, le combat du siècle où le public lui donne le rôle du méchant. Il prend sa retraite à seulement 28 ans pour se réinventer en pasteur, mais en 1987, des problèmes d'argent le ramènent sur le ring. Pas grand monde ne l'imagine capable de retrouver les sommets, et pourtant, il redevient champion du monde en 1994, à 45 ans du jamais vu. L'ancien symbole de force brute est désormais un homme sympathique et populaire. Sa carrière terminée, sa bonhomie lui permet de vendre des millions de grilles portant son nom et fait parfois oublier qu'il a été l'un des plus redoutables boxeurs de l'histoire. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
RFI. RFI 9h32 à Niamey. Trois jours de deuil national ont débuté ce matin au Niger. Le gouvernement reconnaît que 44 civils au moins ont été tués hier vendredi lors d'une attaque menée par les hommes d'un groupe djihadiste dans la région des Trois Frontières, dans le sud-ouest donc du Niger. Le ministère de l'Intérieur met en cause le groupe État islamique. La Guinée et la justice guinéenne qui confirment l'inculpation à venir de l'opposant Seloud Alain Diallo, le président du parti UFDG, accusé de corruption, de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite. En fait, il est mis en cause pour son rôle dans l'affaire dite Air Guinée, à savoir la vente des appareils de la compagnie aérienne nationale au moment où Seloud Alain Diallo était ministre des Travaux publics et des Transports. L'UFDG, son parti, dénonce ce matin un acte purement politique. Justice également au Mali, où 9 militants de sympathisants de l'imam Mahmoud Diko ont commencé à comparaître avant-hier, jeudi, devant le tribunal de la commune 5 à Bamako. Un peu plus d'un mois après leur arrestation, le 14 février dernier, journée annoncée comme celle d'un grand retour à Bamako de l'imam Diko, qui vit depuis un an en exil en Algérie. Finalement, le retour annoncé n'a pas eu lieu, mais les arrestations, elles, et les poursuites sont bien effectives, nous explique David Baché.
Les soutiens de l'imam Diko expliquent être sortis du procès soulagés, même si le jugement ne sera rendu que la semaine prochaine. Les 9 militants à la barre sont poursuivis pour attroupement illégal. Leur avocat a plaidé la relaxe, expliquant que les soutiens de l'imam Diko, qui avaient appelé à venir accueillir l'imam à l'aéroport, avaient prévenu le gouvernorat de Bamako et n'avaient reçu aucune réponse, aucune notification de cette interdiction, qui n'a pas non plus fait l'objet de communication publique. Quant au procureur, il a lui-même demandé la relaxe pour 4 des accusés, qui ont assuré être sortis ce jour-là par curiosité. Pour les 5 autres, qui ont reconnu avoir répondu à l'appel des partisans de Mahmoud Diko, le procureur a requis 1 an de prison à leur encontre, avec sursis. Même s'ils étaient condamnés, les 5 hommes seraient donc libérés. Le délibéré a été renvoyé au jeudi 27 mars prochain.
David Bachet. Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Gabon, où la liste des candidats pour la prochaine élection présidentielle est désormais définitive. Ils seront 8 le 12 avril prochain à être en lice pour ce scrutin qui doit mettre fin à la période de transition après le coup d'État contre Ali Bongo il y a maintenant 1 an et demi. 8 dans le détail, les 4 déjà validés par le ministère de l'Intérieur et 4 autres repêchés hier par la Cour constitutionnelle à Libreville après examen de leur recours. Et parmi les recalés, il y a le syndicaliste Jean-Rémy Yama qui dénonce une décision injuste. Au Soudan, le président veut que les FSR, c'est-à-dire les hommes du général Emeti, rendent les armes avant toute négociation. Déclaration donc hier du général Al-Burhan, alors que ses soldats ont réussi à reprendre hier le contrôle du palais présidentiel à Khartoum et que globalement, ils sont depuis plusieurs semaines à l'offensive. Ils ont la main haute en ce moment face aux paramilitaires d'Emeti. Hier tout de même, quelques heures après l'annonce de la reprise du palais présidentiel, au moins 3 journalistes y ont été tués lors d'une attaque de drone opérée par les FSR. Au Ghana, se pose à nouveau la question des mesures de sécurité contre les incendies dans les marchés bondés du pays. Hier, le feu a ravagé l'un des marchés symboliques du Ghana, celui de Kumasi, la deuxième ville du pays, quelques semaines après un incident similaire sur un autre des grands marchés ghanéens, celui de la capitale, Accra. Correspondance de Victor Cariou.
Plus de 4000 mètres carrés de commerce détruits, des dizaines d'échoppes parties en fumée et des pertes qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliers de cédis. Voici le bilan provisoire de l'incendie survenu vendredi matin au marché d'Adoum, en plein centre du quartier d'affaires de Kumasi. Maîtrisé après 5 heures d'intervention, cet incendie a été très compliqué à éteindre, selon le Service national des pompiers du Ghana. Contacté par RFI, leur porte-parole fait notamment état de grandes difficultés à circuler dans les allées étroites et encombrées du marché. Si une enquête doit encore déterminer les causes du drame, cette situation rappelle grandement l'incendie en janvier du marché de Kantamanto à Accra, poursuit le porte-parole des pompiers. Il relève notamment l'absence totale de normes de sécurité incendie dans ces 2 marchés de plein air dédiés en grande partie à la vente de vêtements de seconde main. Ce vendredi, en fin d'après-midi, le président John Dramani Mahama s'est rendu dans les ruines du marché d'Adoum à la rencontre des victimes de l'incendie. Face à une foule dénonçant l'absence de moyens pour lutter efficacement contre ces incendies, le président a assuré que son gouvernement ferait tout pour aider les commerçants à reconstruire le marché. Victor Cariou, Accra, RFI.
Le Ghana qui a finalisé le mois dernier un accord de restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers. Le Ghana qui avait fait défaut en 2022. Hier, c'est l'Éthiopie qui a pris le même chemin, celui de la restructuration de sa dette. Addis Abeba est arrivé hier à un accord de principe avec ses créanciers publics, quelques mois après avoir trouvé un autre accord déjà avec le Fonds monétaire international, nous explique Claire Fage.
C'est un accord de principe et seule une partie de la dette extérieure de l'Éthiopie est concernée, 8,5 milliards de dollars de dette bilatérale sur un total de 30 milliards de dollars de dette extérieure. Mais selon le ministre éthiopien des Finances, le deal, négocié comme pour la Zambie et le Ghana sous le régime du cadre commun du G20 incluant la Chine, devrait permettre d'alléger les intérêts de 2,5 milliards de dollars sur la période 2023-2028. En juillet dernier, un accord avec le FMI avait ouvert la voie à la restructuration de la dette éthiopienne. Les autorités d'Addis Abeba avaient accepté de laisser flotter la monnaie, le birr, pour réduire le volume des importations et augmenter celui des exportations. Reste à renégocier la dette de l'Éthiopie auprès des acteurs privés, en particulier les obligations sur lesquelles le pays d'Afrique de l'Est avait fait défaut en décembre 2023.
Claire Fage. Et puis un mot de football pour finir, puisque pas moins de 11 matchs comptant pour les qualifications de la prochaine Coupe du Monde se sont déroulés hier. À noter les victoires de la RDC, par exemple, face au Soudan du Sud, du Nigeria 2-0 face au Rwanda, ou encore de la Côte d'Ivoire qui s'impose 1-0 au Burundi. Aujourd'hui, le programme est un peu moins chargé avec deux rencontres seulement à l'agenda. Soudan-Sénégal et Togo-Mauritanie. Et puis, je vous signale que Kirsty Coventry sera l'invité de Mondial Sport cet après-midi. La ministre des Sports du Zimbabwe, tout juste élue à la tête du CIO, le Comité international olympique, dont elle est la première femme et la première africaine à la présidence. Rendez-vous tout à l'heure cet après-midi après le journal de 17h, heure de Paris. Pour l'instant, il est 9h40 ici à Paris. Et je vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des RFI.